Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Conditions de vie difficiles pour les déplacés qui affluent dans le Lubero au Nord Kivu. Ces familles ont fui leur village dans le Rutshuru suite au combat entre l'armée et le M23 et se retrouvent dans des écoles, des églises ou encore des familles d'accueil sans aucune assistance humanitaire. Signature la semaine dernière à Kinshasa du contrat de prêt et de commercialisation des diamants entre la MIBA et une firme américaine. Cette dernière vient de débourser 45 millions de dollars pour financer le plan de relance minimum lui présenté par la MIBA. Cependant, plusieurs observateurs s'inquiètent car cette firme américaine n'a aucune représentation en RDC. Et puis, Ituri, difficulté de fonctionnement pour l'hôpital général de référence de Drodro. Ce centre hospitalier a été attaqué la semaine dernière et tous les équipements emportés, d'autres saccagés, signale Médecins sans frontières qui appuie cette structure. Pour en parler, nous recevons Aboubakar Balo, coordonnateur du projet MSF Drodro. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, les déplacés continuent d'affluer dans plusieurs localités et villages du territoire de Lubero. C'est la conséquence de la poursuite des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire voisin de Rutshuru. Jusque-là, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance humanitaire et leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est ce que nous dit Martial Papi Mukeba.
L'afflux des déplacés dans les territoires de Lubero est observé depuis l'occupation par les rebelles du M23 des Nyanzale, Kibirizi et la Rwindi dans les territoires de Rutshuru. Ces déplacés vivent dans des écoles pour certains et pour d'autres dans des églises ou familles d'accueil. Leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles, comme l'explique Kavali Zawadi de l'organisation locale Groupe des volontaires pour la promotion de la paix.
Nous venons d'enregistrer avec le notable Nyumbakumi Amira 2012 ménages, Birundule 3472 ménages, Yobora 5002 ménages, Lusoa Bubishi 4913 ménages, Lusoa Bueri 1042 ménages. Beaucoup d'entre ces déplacés ont déjà perdu leur dignité d'être appelés personnes. L'axe Miranki, Lusoa Kanyabayonga jusqu'à Kirumba, les déplacés souffrent plus que Mamagoma.
Des sources administratives locales affirment que certains enfants ont également été séparés des forces de leur famille pendant la fuite. Ils se retrouvent presque abandonnés. Leur prise en charge avant la réunification familiale était notre besoin urgent, précise les mêmes sources. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et au sujet de cet afflux des déplacés dans le Lubero au Nord Kivu, notez cette nouvelle déclaration de l'administrateur de ce territoire. Le colonel Alain Kiwewa annonce une assistance en vivres du gouvernement congolais à ces déplacés, estimée à ce jour à plus de 20 000 personnes. Il affirme par ailleurs que des mesures sécuritaires ont été prises pour protéger la population dans cette région face à l'avancée des rebelles du M23. Le colonel Alain Kiwewa est au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons déjà plus de 20 000 déplacés de guerre jusque-là qui n'ont pas d'assistance et qui sont dans les familles d'accueil. Certains sont à l'église, d'autres sont dans les écoles. Le gouvernement a fait quand même un geste. Il doit assister en principe ces déplacés de guerre. Il y a les vivres qui sont déjà stockés. Demain mardi ou mercredi, la population sera assistée. Les mesures sécuritaires, nous avons toute une armée qui est devant nous. L'armée qui a le devoir de nous sécuriser. Et je suis sûr qu'ils vont sécuriser les territoires d'une manière convenable. Mais seulement la population, je demande en ces moments ici que nous soyons beaucoup plus unis. Parce que quand ça brûle, c'est chez les voisins et nous ne devons pas nous en réjouir. Aujourd'hui, on parle de Vichumbi aujourd'hui, qui est aussi une grande porte pour atteindre directement Lubero. Moi, je pense que tout de ces côtés-là, nos hommes, la population doit être vigilante pour que nous ne puissions pas être surpris un de ces matins.
Par ailleurs, la situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans les localités nouvellement occupées par le M23. C'est notamment en groupement Mutanda, territoire de Rutshuru, et le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi. Si une accalmie précaire règne dans la zone de la Rwindi et Vichumbi dans le Rutshuru, l'axe Mweso-Kashuga, territoire de Masisi, reste très instable. Bernard Nyangi.
Sur l'axe Mouessou-Kachouka-Kalembe, où l'avancée des rebelles du 23 vers Pinga dans le Walikale a été stoppée dimanche, la situation reste très instable, indiquent plusieurs sources locales. Hier lundi, des accrochages violents ont opposé les rebelles aux éléments des groupes armés locaux entre 10h et 16h locales, notamment dans les localités Kirumbu et Changé, nord-ouest de Kichanga Mouessou. Sous cet axe, la présence de l'armée congolaise est encore signalée autour de Kalembe. Cette localité, à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, a été occupée momentanément samedi et dimanche par les rebelles avant que ces derniers ne l'abandonnent à nouveau pour replier vers Kachouga. Du côté de Buito, nos sources parlent d'une accalmie après l'entrée hier lundi sans combat des rebelles du 23 dans la localité de Vichumbi, au bord du lac Édouard. Cette localité est la énième que ces rebelles viennent d'occuper les 7 derniers jours dans le groupement Mutanda. Ce, après Kikuku, Nyanzale, Kibirizi, Somikivu et Larundi, pour ne citer que celles-là. Toutes ces localités sont vidées à près de 80% de leur population qui ont fui vers Lubero et Ikobo dans le territoire de Walikale. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
En Ituri, 15 miliciens du groupe armé Codeco comparaissent depuis lundi au cours des audiences foraines qui se déroulent à Chomia. Nous sommes à plus ou moins 60 km de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou. Ils sont poursuivis pour des crimes de guerre par meurtre, pillage et participation à un mouvement insurrectionnel. Les acteurs de la société civile et les activistes des droits de l'homme saluent la tenue de ces audiences, appuyées par la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Ezekiel Mouzalia.
Le tribunal militaire des garnisons de Bounia, siégeant en chambre foraine à Chomia dans le territoire de Djougou, statue depuis lundi sur 2 dossiers des prévenus, tous impliqués dans plusieurs cas de meurtres, pillages, extorsion des biens des civils. Des faits qui datent de 2019 et 2020 lors de l'incursion de ces hommes armés dans ce territoire en proie aux conflits armés depuis plusieurs décennies dans la province. Le premier dossier concerne 8 prévenus cités comme principaux commanditaires de l'attaque des villages Solaya qui avaient coûté la vie à de nombreux civils. Le second concerne 7 assaillants du même groupe armé, dont une femme également accusée de plusieurs cas de meurtre à Sayo dans la commune rurale de Mungwalu. Au terme des enquêtes qui ont été lancées par les autorités judiciaires avec le soutien de la MONUSCO, ces prévenus sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, pillage et participation à un mouvement insurrectionnel. Jean-Georges Nyamé, chef de section d'appui à la justice de la mission onusienne.
Le soutien de la MONUSCO se fera sur le plan technique, s'assurer du respect des standards internationaux en matière de jugement des crimes internationaux devant le tribunal dans le respect des droits de la défense.
La société civile et des activistes des droits de l'homme saluent la tenue de ces audiences qui visent à rapprocher la justice des justiciables et servir d'exemple aux auteurs des crimes contre l'humanité en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, signature la semaine dernière à Kinshasa du contrat de prêt et de commercialisation de diamants entre la société minière de Bakwanga Miba et Centreville Group, une firme américaine. Le communiqué publié à ce sujet la semaine dernière par la Miba indique que les fonds déboursés par cette firme, soit environ 45 millions de dollars, sont remboursables sur une durée de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 3%. Des précisions avec Esther Ndalafina.
L'entreprise Centreville Group vient de débourser 45 millions de dollars pour financer le plan de relance minimum, le présenté par la société minière de Bakwanga Miba. Ces fonds sont remboursables sur une durée de 7 ans au taux d'intérêt annuel de 3%. Pourtant, c'est depuis 2 ans que la Miba attend toujours du gouvernement congolais et d'autres partenaires plus de 400 millions de dollars pour la relance totale des activités de production du diamant. Dans le communiqué publié la semaine dernière, la direction générale de la Miba a démontré son avantage majeur dans cette association avec Centreville Group qui est cette opportunité que lui apporte son partenaire de vendre son diamant au meilleur prix sur le marché national et international et que le bénéfice fera l'objet d'un partage à part égale entre les deux sociétés. Cependant, plusieurs observateurs sont sceptiques quant à la signature de ce contrat à l'absence de l'actionnaire minoritaire Sibeka. Le président du conseil d'administration et les directeurs généraux de la Miba ont signé ce contrat qu'avec une personne qui a représenté la société Centreville Group, une firme du droit américain sans aucune représentation en République démocratique du Congo et dont le lien faisant référence à cette société sur Google ne s'ouvre pas. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Construction du micro-barrage Chute Mbombo au Kasaï central, le bureau central de coordination Biseko et l'entreprise Moderne Construction ont signé lundi à Kananga un contrat de construction de la route qui mène vers le site. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de province John Kabea. Cette voie facilitera le transport des matériels sur le lieu où le micro-barrage sera construit. François Kadima nous en dit plus.
Cette route de 10 km partira de l'avenue Nkonko dans la commune de Langanza jusqu'au site. C'est le premier contrat qui consiste à construire la route en béton pour donner accès au site et y placer de l'éclairage public. Le directeur général du BCECO, Jean Mabi, explique.
10 km bétonnés pour faciliter l'accès sur le site parce qu'on va amener des gros engins. Si on fait une route en terre, cette route-là ne restera pas longtemps. C'est pour ça qu'on va bétonner cette route-là. Les études sont finies. Ce qui a donné lieu justement, c'est qu'on négocie pour lancer les travaux.
Ces travaux dureront 8 mois selon les clauses du contrat signé entre BCECO, qui est maître d'ouvrage, et Modern Construction, l'entreprise qui exécute le marché. D'autres contrats suivront. C'est notamment celui lié au transport, aux travaux de génie civil ainsi que la pose de tribunes. Déjà, l'entreprise Modern Construction s'est dit être engagée à exécuter et finaliser ces travaux de la route et du micro-barrage Chute Mbombo. André Mbangou est son directeur général.
Pas de l'électricité, il n'y aura jamais le développement. Et que nous sommes très actifs pour contribuer à la construction de ce barrage.
Signalons que le micro-barrage Chute Mbombo pourra produire, s'il est fini, 10 MW dans la première phase et permettra à la population de la ville de Kananga d'avoir de l'électricité. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Province du Kwilu, le pont Kabangu dans le territoire de Bulungu qui s'était écroulé en février dernier à l'entrée de Bulungu Cité est en train d'être remplacé par un nouveau. Les travaux de montage du nouveau pont avancent bien. L'office des routes qui exécute ces travaux indique que ce dernier va supporter plus de poids que l'ancien. Le point avec Irène Boma.
Vieux de plus de 50 ans, cela fait déjà plus d'un mois que le pont Kabangu jeté sur la rivière portant le même nom à Bulungu, chef-lieu du territoire de Bulungu, s'était écroulé, coupant ainsi le trafic entre cette entité et Kinshasa, ainsi que le reste des territoires du Kwilu. Cela après le passage d'un gros véhicule, alors que l'ouvrage était en pleine réhabilitation, a indiqué le directeur provincial de l'Office des routes du Kwilu. L'ingénieur Michel Miseka rassure que dans un bref délai, le trafic sera à nouveau repris car selon lui, les travaux de montage du nouveau pont devant remplacer celui écroulé sont en cours d'exécution.
Pour lancer le nouveau pont, il a fallu d'abord démonter l'ancien. Et nous sommes maintenant là à la phase du montage de ce nouveau pont. Le pont, quand ça arrive, ça vient détaché. Maintenant, il faut attacher chaque élément pour constituer un pont. C'est un pont métallique. Le pont sera bientôt praticable, si tout va bien, dans 2 semaines.
Signalons que le pont Kabangu est d'une importance économique très capitale, car il permet l'évacuation des produits agricoles dans les grands centres de consommation comme à Kinshasa et ailleurs. La société civile de Bulungu salue les travaux de montage de cette infrastructure et souhaite que les 10 travaux puissent aller jusqu'au terme. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Rendons-nous au sud Kivu, où des dizaines de maisons du quartier Panzi sont inondées par les eaux de la rivière Ruzizi depuis la nuit dernière, situation consécutive au glissement de terre survenu sur l'autre rive du côté rwandais où une colline s'est affaissée dans le lit de la rivière Ruzizi. Les habitants sinistrés crient au secours. Des mesures de délocalisation de ces habitants s'imposent, nous dit Emmanuel Elamejiwa Wakabidi.
Plusieurs habitants du quartier Panzi se sont réveillés, les pieds dans l'eau de la rivière Ruzizi qui sépare la RDC du Rwanda. La nuit de lundi à ce mardi, la colline de Nyiratengo à Nyamagane au Rwanda s'est une fois de plus affaissée, se déversant dans la rivière Ruzizi, c'est au niveau de Bouozi en territoire de Kabare. Ruzizi ainsi gonflée, l'eau s'est déversée dans les habitations du quartier Panzi, comme le confirme un témoin sur place.
Dans la nuit, il y a eu des boulements de terre qui a encore partagé la rivière Ruzizi et l'eau continue à percer et à inonder dans le village de Bouozi.
Déjà en février dernier, les mêmes causes avaient produit les mêmes effets au même endroit. Les chercheurs proposent la délocalisation immédiate de tous les habitants de cette zone avant que le pire n'arrive.
C'est un phénomène qui est bien connu puisqu'il s'agit d'un glissement de terrain qui a été identifié déjà depuis les années 50. C'est un des glissements de terrain qui est très actif. Donc on est sur un énorme glissement de terrain de plus de 80 hectares vers la rivière Ruzizi.
Cette situation risque d'impacter négativement sur la centrale hydroélectrique de la Sinélac qui dessert la RDC, le Rwanda et le Burundi en électricité. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale. Des représentants du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités régionales du Tigré ont entamé des pourparlers à Addis Abeba en Éthiopie afin de mettre fin au retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. L'accord négocié entre les deux parties et signé en Afrique du Sud en novembre 2022 visait à apporter la stabilité à la région après le conflit entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement fédéral qui avait éclaté en novembre 2020.
L'invité.
Nous sommes en Ituri. L'hôpital général de référence de Drodro, dans le territoire de Djougou, éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Le matériel médical a été pillé, d'autres saccagés et une patiente d'une septantaine d'années tuée dans son lit d'hôpital la semaine dernière par des hommes en armes. Ce constat est de l'Organisation internationale Médecins sans frontières qui assure la prise en charge des malades dans cet hôpital. Notre invité est Aboubakar Balo, coordonnateur du projet MSF Drodro. S'entretient à ce sujet avec Ezekiel Mousalia.
Monsieur Aboubakar Mbalo, bonjour.
Bonjour.
Une semaine après cette attaque, quel état des lieux vous faites de la situation de l'hôpital de Drodro?
Bon, ce qu'il faut noter, la situation reste relativement tendue dans la zone à la suite de cet incident. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter, que l'hôpital n'est plus fonctionnel, donc du matériel médical dérobé. Une patiente a été tuée au niveau de l'hôpital, donc le service n'est plus fonctionnel, les patients n'ont plus accès aux soins au niveau de l'hôpital général de Drodro.
Et quel est le sort des autres malades qui ont survécu ces drames?
Ce qu'il faut noter, pendant l'incident, le lendemain, on a évacué toutes nos équipes vers Ro, ou avec les patients, où nous continuons à assurer un minimum de soins pour ces patients qui sont alités. Pour le moment, on peut pas parler de bilan précis parce que voilà, on a vu la situation, on était obligé d'évacuer rapidement, de fuir vers le camp de Ro. L'hôpital a été pillé, notamment la salle de service de chirurgie, mais aussi le service de l'INTI où on prend en charge les cas de malnutrition aiguë. Voilà, ces deux structures ont été pillées. Et des structures sanitaires, notamment le centre de santé de Drodro qui est annexé à l'hôpital de référence.
Une patiente a été tuée sur son lit d'hospitalisation. Et MSF a fermement condamné ces crimes. Comment comprendre un tel acte et est-ce que vous avez espoir qu'il soit le dernier?
Effectivement, nous avons condamné cet acte parce que l'acte est incompréhensible de... Une patiente qui est alitée, sans défense, on vient froidement l'exécuter au niveau de l'hôpital. C'est condamnable, c'est horrible, c'est inadmissible. Et c'est pourquoi on exhorte toutes les parties au conflit de respecter les structures médicales, de protéger la mission médicale pour qu'on puisse continuer à apporter les soins pour les deux communautés.
La situation sécuritaire se dégrade davantage dans les territoires de Djougou. C'est à cause des violences justement communautaires. Alors comment cela affecte vos interventions sur le terrain et même sur la prise en charge des malades?
Ça affecte parce que quand il y a des incidents, aujourd'hui on est, comme je l'ai dit, on est présent au niveau du poste de santé du camp de Ro où nous assurons le service minimum. Donc aujourd'hui, certaines prises en charge n'est plus possible parce que voilà, l'hôpital a quand même un plateau technique qui permettait de prendre en charge certains patients de cas compliqués, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'hôpital est pillé, donc l'hôpital n'est plus fonctionnel. Donc ça impacte déjà la prise en charge des cas compliqués des communautés dans le besoin, mais également une réduction des autres activités humanitaires, que ce soit pour MSF, que ce soit pour d'autres organisations qui étaient présentes dans la zone. On essaie vraiment de prendre les cas qu'on peut prendre en charge au niveau du poste de santé de Ro, où le plateau technique n'est pas quand même aussi relevé que dans un hôpital. On est en discussion aussi avec partenaire avec la MONUSCO pour pouvoir faciliter le référencement des cas compliqués vers Bougna pour une meilleure prise en charge, tout en sachant que les axes routiers aujourd'hui ne sont plus accessibles pour pouvoir faire des évacuations par voie terrestre.
Quelles sont vos attentes maintenant après cet incident vis-à-vis des autorités pour vous aider à mieux remplir vos missions d'intervention humanitaire en faveur de la population?
Ce que nous, les humanitaires, nous demandons, c'est plus de garanties sécuritaires pour pouvoir continuer à supporter les communautés. Parce qu'aujourd'hui, la situation quand même à Drodro, notamment au niveau du camp de Ro, reste assez préoccupante. Déjà, les conditions étaient difficiles avant même l'arrivée de cet dernier incident regrettable. Aujourd'hui, les populations vivent dans des conditions difficiles, des problèmes d'approvisionnement en nourriture, des problèmes d'approvisionnement en eau, impact déjà ces communautés. Je pense que si on a les garanties sécuritaires nécessaires et l'accès humanitaire sécurisé, on pourra vraiment continuer à soulager les communautés dans le besoin. Donc, nous lançons un appel vraiment aux autorités pour pouvoir assurer une meilleure sécurité, un meilleur accès pour les humanitaires.
Monsieur Aboubakar Mbalo, merci.
Merci beaucoup.
Le coordonnateur du projet Médecins sans frontières, MSF Drodro, en Ituri, s'entretenait avec Ezekiel Mouzalia. Par ici, pour enfin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été de notre.